dispersion pendant la période glaciaire. L'identité de beaucoup de plantes et d'animaux qui vivent sur les sommets de chaînes de montagnes, séparées les unes des autres par des centaines de milliers de plaines, dans lesquelles les espèces alpines ne pourraient exister, est un des cas les plus frappants d'espèces identiques vivant sur des points très éloignés, sans qu'on puisse admettre la possibilité de leur migration de l'un à l'autre de ces points. C'est réellement un fait remarquable que de voir tant de plantes de la même espèce vivre sur les sommets neigeux des Alpes et des Pyrénées en même temps que dans l'extrême nord de l'Europe. Mais il est encore bien plus extraordinaire que les plantes des montagnes blanches, aux États-Unis, soient toutes semblables à celles du Labrador et presque semblables, comme nous l'apprend Asa Gray, à celles des montagnes les plus élevées d'Europe. Déjà, en 1747, l'observation de faits de ce genre avait conduit Gmelin à conclure à la création indépendante d'une même espèce en plusieurs points différents. Et peut-être aurait-il fallu nous en tenir à cette hypothèse si les recherches d'Agassiz et d'autres n'avaient appelé une vive attention sur la période glaciaire qui, comme nous allons le voir, fournit une explication toute simple de cet ordre de faits. Nous avons les preuves les plus variées, organiques et inorganiques, que, à une période géologique récente, l'Europe centrale et l'Amérique du Nord subirent un climat arctique. Les ruines d'une maison consumée par le feu ne racontent pas plus clairement la catastrophe qui l'a détruite que les montagnes de l'Écosse et du Pays de Galles, avec leurs flancs labourés, leurs surfaces polies et leurs blocs erratiques, ne témoignent de la présence des glaciers qui dernièrement encore en occupaient les vallées. Le climat de l'Europe a si considérablement changé que, dans le nord de l'Italie, les moraines gigantesques laissées par d'anciens glaciers sont actuellement couvertes de vignées de maïs. Dans une grande partie des États-Unis, des blocs erratiques et des roches striées révèlent clairement l'existence passée d'une période de froid. Nous allons indiquer en quelques mots l'influence qu'a dû autrefois exercer l'existence d'un climat glacial sur la distribution des habitants de l'Europe, d'après l'admirable analyse qu'en a faite A. Forbes. Pour mieux comprendre les modifications apportées par ce climat, nous supposerons l'apparition d'une nouvelle période glaciaire commençant lentement, puis disparaissant, comme cela a eu lieu autrefois. À mesure que le froid augmente, les zones plus méridionales deviennent plus propres à recevoir les habitants du Nord. Ceux-ci s'y portent et remplacent les formes des régions tempérées qui s'y trouvaient auparavant. Ces dernières, à leur tour et pour la même raison, descendent de plus en plus vers le sud, à moins qu'elles ne soient arrêtées par quelque obstacle, auquel cas elles périssent. Les montagnes se couvrent de neige et de glace, les formes alpines descendent dans les plaines. Et, lorsque le froid aura atteint son maximum, une faune et une flore arctique occuperont toute l'Europe centrale jusqu'aux Alpes et aux Pyrénées, en s'étendant même jusqu'en Espagne. Les parties actuellement tempérées des États-Unis seraient également peuplées de plantes et d'animaux arctiques qui seraient à peu près identiques à ceux de l'Europe. Car les habitants actuels de la zone glaciale qui, partout, auront émigré vers le sud, sont remarquablement uniformes autour du pôle. Au retour de la chaleur, les formes arctiques se retireront vers le nord, suivies dans leur retraite par les productions des régions plus tempérées. À mesure que la neige quittera le pied des montagnes, les formes arctiques s'empareront de ce terrain déblayé et remonteront toujours de plus en plus sur leurs flancs à mesure que, la chaleur augmentant, la neige fondra à une plus grande hauteur, tandis que les autres continueront à remonter vers le nord. Par conséquent, lorsque la chaleur sera complètement revenue, les mêmes espèces qui auront vécu précédemment dans les plaines de l'Europe et de l'Amérique du Nord se trouveront tant dans les régions arctiques de l'Ancien et du Nouveau Monde que sur les sommets de montagnes très éloignées les unes des autres. Ainsi s'explique l'identité de bien des plantes habitant des points aussi distants que le sont les montagnes des États-Unis et celles de l'Europe. Ainsi s'explique aussi le fait que les plantes alpines de chaque chaîne de montagnes se rattachent plus particulièrement aux formes arctiques qui vivent plus au nord, exactement ou presque exactement, sur les mêmes degrés de longitude. Car les migrations provoquées par l'arrivée du froid et le mouvement contraire résultant du retour de la chaleur ont dû généralement se produire du nord au sud et du sud au nord. Ainsi, les plantes alpines de l'Écosse, selon les observations de M. H. C. Watson, et celles des Pyrénées d'après Ramon, se rapprochent surtout des plantes du nord de la Scandinavie, celles des États-Unis de celles du Labrador, et celles des montagnes de la Sibérie de celles des régions arctiques de ce pays. Ces déductions, basées sur l'existence bien démontrée d'une époque glaciaire antérieure, me paraissent expliquer d'une manière si satisfaisante la distribution actuelle des productions alpines et arctiques de l'Europe et de l'Amérique que, lorsque nous rencontrons dans d'autres régions les mêmes espèces sur des sommets éloignés, nous nous pouvons presque conclure, sans autre preuve, à l'existence d'un climat plus froid qui a permis autrefois leur migration à travers des plaines basses intermédiaires, devenues actuellement trop chaudes pour elles. Pendant leur migration vers le sud et leur retraite vers le nord, causée par le changement du climat, les formes arctiques n'ont pas dû, quelque long qu'ait été le voyage, être exposées à une grande diversité de températures. En outre, comme elles ont dû toujours s'avancer en masse, leurs relations mutuelles n'ont pas été sensiblement troublées. Il en résulte que ces formes, selon les principes que nous cherchons à établir dans cet ouvrage, n'ont pas dû être soumises à de grandes modifications. Mais à l'égard des productions alpines, isolées depuis l'époque du retour de la chaleur, d'abord au pied des montagnes, puis au sommet, le cas aurait dû être un peu différent. Il n'est guère probable, en effet, que précisément les mêmes espèces arctiques soient restées sur des sommets très éloignés les uns des autres et qu'elles aient pu y survivre depuis. Elles ont dû, sans aucun doute, se mélanger aux espèces alpines plus anciennes qui, habitant les montagnes avant le commencement de l'époque glaciaire, ont dû, pendant la période du plus grand froid, descendre dans la plaine. Enfin, elles doivent aussi avoir été exposées à des influences climatériques un peu diverses. Ces diverses causes ont dû troubler leur rapport mutuel. Elles sont, en conséquence, devenues susceptibles de modifications. C'est ce que nous remarquons en effet si nous comparons les unes aux autres les formes alpines d'animaux et de plantes de diverses grandes chaînes de montagnes européennes. Car, bien que beaucoup d'espèces demeurent identiques, les unes offrent les caractères de variété, d'autres ceux de formes douteuses ou sous-espèces. D'autres, enfin, ceux d'espèces distinctes, bien que très étroitement alliées et se représentant mutuellement dans les diverses stations qu'elles occupent. Dans l'exemple qui précède, j'ai supposé que, au commencement de notre époque glaciaire imaginaire, les productions arctiques étaient aussi uniformes qu'elles le sont de nos jours dans les régions qui entourent le pôle. Mais il faut supposer aussi que beaucoup de formes subarctiques, et même quelques formes des climats tempérés, étaient identiques tout autour du globe, car on retrouve des espèces identiques sur les pentes inférieures des montagnes et dans les plaines, tant en Europe que dans l'Amérique du Nord. Or, on pourrait se demander comment j'explique cette uniformité des espèces subarctiques et des espèces tempérées à l'origine de la véritable époque glaciaire. Actuellement, les formes appartenant à ces deux catégories, dans l'Ancien et dans le Nouveau Monde, sont séparées par l'océan Atlantique et par la partie septentrionale de l'océan Pacifique. Pendant la période glaciaire, alors que les habitants de l'Ancien et du Nouveau Monde vivaient plus au sud qu'aujourd'hui, elles devaient être encore plus complètement séparées par de plus vastes océans. De sorte qu'on peut se demander avec raison comment les mêmes espèces ont pu s'introduire dans deux continents aussi éloignés. Je crois que ce fait peut s'expliquer par la nature du climat qui a dû précéder l'époque glaciaire. À cette époque, c'est-à-dire pendant la période du Nouveau Pliocène, les habitants du monde étaient, en grande majorité, spécifiquement les mêmes qu'aujourd'hui, et nous avons toute raison de croire que le climat était plus chaud qu'il n'est à présent. Nous pouvons supposer, en conséquence, que les organismes qui vivent maintenant par 60 degrés de latitude ont dû, pendant la période Pliocène, vivre plus près du cercle polaire par 66 ou 67 degrés de latitude et que les productions arctiques actuelles occupaient les terres éparses plus rapprochées du pôle. Or, si nous examinons une sphère, nous voyons que, sous le cercle polaire, les terres sont presque continues depuis l'ouest de l'Europe par la Sibérie jusqu'à l'Amérique orientale. Cette continuité des terres circumpolaires, jointe à une grande facilité de migration, résultant d'un climat plus favorable, peut expliquer l'uniformité supposée des productions subarctiques et tempérées de l'Ancien et du Nouveau Monde à une époque antérieure à la période glaciaire. Je crois pouvoir admettre, en vertu de raisons précédemment indiquées, que nos continents sont restés depuis fort longtemps à peu près dans la même position relative, bien qu'ayant subi de grandes oscillations de niveau. Je suis donc fortement disposé à étendre l'idée ci-dessus développée et à conclure que, pendant une période antérieure et encore plus chaude, telle que l'Ancien Pliocène, un grand nombre de plantes et d'animaux semblables ont habité la région presque continue qui entoure le pôle. Ces plantes et ces animaux ont dû, dans les deux mondes, commencer à émigrer lentement vers le sud, à mesure que la température baissait, longtemps avant le commencement de la période glaciaire. Ce sont, je crois, leurs descendants, modifiés pour la plupart, qui occupent maintenant les portions centrales de l'Europe et des États-Unis. Cette hypothèse nous permet de comprendre la parenté, d'ailleurs très éloignée, de l'identité qui existe entre les productions de l'Europe et celles des États-Unis. Parenté très remarquable vu la distance qui existe entre les deux continents et leur séparation par un océan aussi considérable que l'Atlantique. Nous comprenons également ce fait singulier remarqué par plusieurs observateurs que les productions des États-Unis et celles de l'Europe étaient plus voisines les unes des autres pendant les derniers étages de l'époque tertiaire qu'elles ne le sont aujourd'hui. En effet, pendant ces périodes plus chaudes, les parties septentrionales de l'Ancien et du Nouveau Monde ont dû être presque complètement réunies par des terres qui ont servi de véritables ponts, permettant les migrations réciproques de leurs habitants, ponts que le froid a depuis totalement interceptés. La chaleur décroissant lentement pendant la période pliocène, les espèces communes à l'Ancien et au Nouveau Monde ont dû émigrer vers le sud. Dès qu'elles eurent dépassé les limites du cercle polaire, toute communication entre elles a été interceptée. Et cette séparation, surtout en ce qui concerne les productions correspondantes à un climat plus tempéré, a dû avoir lieu à une époque très reculée. En descendant vers le sud, les plantes et les animaux ont dû, dans l'une des grandes régions, se mélanger avec les productions indigènes de l'Amérique et entrer en concurrence avec elles, et, dans l'autre grande région, avec les productions de l'Ancien Monde. Nous trouvons donc là toutes les conditions voulues pour des modifications bien plus considérables que pour les productions alpines qui sont restées depuis une époque plus récente isolées sur les diverses chaînes de montagnes et dans les régions arctiques de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Il en résulte que, lorsque nous comparons les unes aux autres les productions actuelles des régions tempérées de l'Ancien et du Nouveau Monde, nous trouvons très peu d'espèces identiques, bien qu'Azagray ait récemment démontré qu'il y en a beaucoup plus qu'on ne le supposait autrefois. Mais en même temps, nous trouvons dans toutes les grandes classes un nombre considérable de formes que quelques naturalistes regardent comme des races géographiques et d'autres comme des espèces distinctes. Nous trouvons enfin une multitude de formes étroitement alliées ou représentatives que tous les naturalistes s'accordent à regarder comme spécifiquement distinctes. Il en a été dans les mers de même que sur la Terre. La lente migration vers le sud d'une faune marine, entourant à peu près uniformément les côtes continues situées sous le cercle polaire à l'époque pliocène, ou même à une époque quelque peu antérieure, nous permet de nous rendre compte, d'après la théorie de la modification, de l'existence d'un grand nombre de formes alliées vivant actuellement dans des mers complètement séparées. C'est ainsi que nous pouvons expliquer la présence sur la côte occidentale et sur la côte orientale de la partie tempérée de l'Amérique du Nord, de formes étroitement alliées existant encore ou qui se sont éteintes pendant la période tertiaire. Et le fait encore plus frappant de la présence de beaucoup de crustacés décrits dans l'admirable ouvrage de Dana, de poissons et d'autres animaux marins étroitement alliés dans la Méditerranée et dans les mers du Japon, deux régions qui sont actuellement séparées par un continent tout entier et par d'immenses océans. Ces exemples de parenté étroite entre des espèces ayant habité ou habitant encore les mers des côtes occidentales et orientales de l'Amérique du Nord, la Méditerranée, les mers du Japon et les zones tempérées de l'Amérique et de l'Europe, ne peuvent s'expliquer par la théorie des créations indépendantes. Il est impossible de soutenir que ces espèces ont reçu lors de leur création des caractères identiques, en raison de la ressemblance des conditions physiques des milieux. Car, si nous comparons par exemple certaines parties de l'Amérique du Sud avec d'autres parties de l'Afrique méridionale ou de l'Australie, nous voyons des pays dont toutes les conditions physiques sont exactement analogues, mais dont les habitants sont entièrement différents. Période glaciaire alternante au nord et au midi. Pour en revenir à notre sujet principal, je suis convaincue que l'on peut largement généraliser l'hypothèse de Forbes. Nous trouvons, en Europe, les preuves les plus évidentes de l'existence d'une période glaciaire depuis les côtes occidentales de l'Angleterre jusqu'à la chaîne de l'Oural et jusqu'aux Pyrénées du Sud. Les mammifères congelés et la nature de la végétation des montagnes de la Sibérie témoignent du même fait. Le docteur Hooker affirme que l'axe central du Liban fut autrefois recouvert de neiges éternelles alimentant des glaciers qui descendaient d'une hauteur de 4000 pieds dans les vallées. Le même observateur a récemment découvert d'immenses moraines à un niveau plus élevé sur la chaîne de l'Atlas, dans l'Afrique septentrionale. Sur les flancs de l'Himalaya, sur des points éloignés entre eux de 1450 km, des glaciers ont laissé les marques de leur descente graduelle dans les vallées. Dans le Sikkim, le docteur Hooker a vu du maïs croître sur d'anciennes et gigantesques moraines. Au sud du continent asiatique, de l'autre côté de l'équateur, les savantes recherches du docteur G. Hast et du docteur Hector nous ont appris que d'immenses glaciers descendaient autrefois à un niveau relativement peu élevé dans la Nouvelle-Zélande. Le docteur Hooker a trouvé dans cette île, sur des montagnes fort éloignées les unes des autres, des plantes analogues qui témoignent aussi de l'existence d'une ancienne période glaciaire. Il résulte des faits qui m'ont été communiqués par le révérend W.B. Clarke que les montagnes de l'angle du sud-est de l'Australie portent aussi les traces d'une ancienne action glaciaire. Dans la moitié septentrionale de l'Amérique, on a observé sur le côté oriental de ce continent des blocs de rochers transportés par des glaces vers le sud jusque par 36 ou 37 degrés de latitude et sur les côtes du Pacifique, où le climat est actuellement si différent, jusque par 46 degrés de latitude. On a aussi remarqué des blocs erratiques sur les montagnes rocheuses. Dans les cordillères de l'Amérique du Sud, presque sous l'équateur, les glaciers descendaient autrefois fort au-dessous de leur niveau actuel. J'ai examiné dans le Chili central un immense amas de détritus contenant de gros blocs erratiques traversant la vallée de Portillo, reste sans aucun doute d'une immense moraine. Monsieur D. Forbes m'apprend qu'il a trouvé sur différents points des cordillères, à une hauteur de 12 000 pieds environ, entre le 13e et le 30e degré de latitude sud, des roches profondément striées, semblables à celles qu'il a étudiées en Norvège, et également de grandes masses de débris renfermant des cailloux striés. Il n'existe actuellement sur tout cet espace des cordillères, même à des hauteurs bien plus considérables, aucun glacier véritable. Plus au sud, des deux côtés du continent, depuis le 41e degré de latitude jusqu'à l'extrémité méridionale, on trouve les preuves les plus évidentes d'une ancienne action glaciaire dans la présence de nombreux et immenses blocs erratiques qui ont été transportés fort loin des localités d'où ils proviennent. L'extension de l'action glaciaire tout autour de l'hémisphère boréal et de l'hémisphère austral, le peu d'ancienneté dans le sens géologique du terme de la période glaciaire dans l'un et l'autre hémisphère, sa durée considérable estimée d'après l'importance des effets qu'elle a produits, enfin, le niveau inférieur auquel les glaciers se sont récemment abaissés tout le long des cordillères, sont autant de faits qui m'avaient autrefois porté à penser que, probablement, la température du globe entier devait, pendant la période glaciaire, s'être abaissée d'une manière simultanée. Mais M. Krull a récemment cherché, dans une admirable série de mémoires, à démontrer que l'état glacial d'un climat est le résultat de diverses causes physiques déterminées par une augmentation dans l'excentricité de l'orbite de la Terre. Toutes ces causes tendent au même but, mais la plus puissante paraît être l'influence de l'excentricité de l'orbite sur les courants océaniques. Il résulte des recherches de M. Krull que des périodes de refroidissement reviennent régulièrement tous les 10 ou 15 000 ans, mais qu'à des intervalles beaucoup plus considérables, par suite de certaines éventualités, dont la plus importante comme l'a démontré Sir C. Lyell et la position relative de la Terre et des eaux, le froid devient extrêmement rigoureux. M. Krull estime que la dernière grande période glaciaire remonte à 240 000 ans et a duré, avec de légères variations de climat, pendant environ 160 000 ans. Quant aux périodes glaciaires les plus anciennes, plusieurs géologues sont convaincus, et ils fournissent à cet égard des preuves directes, qu'il a dû s'en produire pendant l'époque miocène et à l'époque éocène, sans parler des formations plus anciennes. Mais pour en revenir au sujet immédiat de notre discussion, le résultat le plus important auquel soit arrivé M. Krull est que, lorsque l'hémisphère boréal traverse une période de refroidissement, la température de l'hémisphère austral s'élève sensiblement. Les hivers deviennent moins rudes, principalement par suite de changements dans la direction des courants de l'océan. L'inverse a lieu pour l'hémisphère boréal, lorsque l'hémisphère austral passe à son tour par une période glaciaire. Ces conclusions jettent une telle lumière sur la distribution géographique que je suis disposé à les accepter. Mais je commence par les faits qui réclament une explication. Le docteur Hooker a démontré que, dans l'Amérique du Sud, outre un grand nombre d'espèces étroitement alliées, environ 40 ou 50 plantes à fleurs de la Terre de Feu, constituant une partie importante de la maigre flore de cette région, sont communes à l'Amérique du Nord et à l'Europe, si éloignées que soient ces régions situées dans les deux hémisphères opposés. On rencontre sur les montagnes élevées de l'Amérique équatoriale une foule d'espèces particulières appartenant à des genres européens. Gardner a trouvé sur les monts Organ, au Brésil, quelques espèces appartenant aux régions tempérées européennes, des espèces antarctiques et quelques genres des Andes qui n'existent pas dans les plaines chaudes intermédiaires. L'illustre Humboldt a trouvé aussi, il y a longtemps, sur la Silla de Caracas, des espèces appartenant à des genres caractéristiques des cordillères. En Afrique, plusieurs formes ayant un caractère européen et quelques représentants de la flore du Cap de Bonne-Espérance se retrouvent sur les montagnes de l'Abyssinie. On a rencontré au Cap de Bonne-Espérance quelques espèces européennes qui ne paraissent pas avoir été introduites par l'homme, et sur les montagnes, plusieurs formes représentatives européennes qu'on ne trouve pas dans les parties intertropicales de l'Afrique. Le docteur Hooker a récemment démontré aussi que plusieurs plantes habitant les parties supérieures de l'île de Fernando Po, ainsi que les montagnes voisines de Cameroun, dans le golfe de Guinée, se rapprochent étroitement de celles qui vivent sur les montagnes de l'Abyssinie et aussi des plantes de l'Europe tempérée. Le docteur Hooker m'apprend en outre que quelques-unes de ces plantes appartenant aux régions tempérées ont été découvertes par le révérend F. Love sur les montagnes des îles du Cap-Vert. Cette extension des mêmes formes tempérées, presque sous l'équateur, à travers tout le continent africain jusqu'aux montagnes de l'archipel du Cap-Vert, est sans contredit un des cas les plus étonnants qu'on connaisse en fait de distribution de plantes. Sur l'Himalaya et sur les chaînes de montagnes isolées de la péninsule indienne, sur les hauteurs de Ceylan et sur les cônes volcaniques de Java, on rencontre beaucoup de plantes, soit identiques, soit se représentant les unes aux autres et, en même temps, représentant des plantes européennes, mais qu'on ne retrouve pas dans les régions basses et chaudes intermédiaires. Une liste des genres recueillis sur les pics les plus élevés de Java semble dressée d'après une collection faite en Europe sur une colline. Un fait encore plus frappant, c'est que des formes spéciales à l'Australie se trouvent représentées par certaines plantes croissant sur les sommets des montagnes de Bornéo. D'après le Dr Hooker, quelques-unes de ces formes australiennes s'étendent le long des hauteurs de la péninsule de Malacca et sont faiblement disséminées d'une part dans l'Inde et d'autre part, aussi loin vers le nord que le Japon. Le Dr F. Müller a découvert plusieurs espèces européennes sur les montagnes de l'Australie méridionale. D'autres espèces, non introduites par l'homme, se rencontrent dans les régions basses, et, d'après le Dr Hooker, on pourrait dresser une longue liste de genres européens existant en Australie et qui n'existent cependant pas dans les régions torrides intermédiaires. Dans l'admirable Introduction à la flore de la Nouvelle-Zélande, le Dr Hooker signale des faits analogues, et non moins frappants, relatifs aux plantes de cette grande île. Nous voyons donc que certaines plantes vivant sur les plus hautes montagnes des tropiques dans toutes les parties du globe et dans les plaines des régions tempérées, dans les deux hémisphères du nord et du sud, appartiennent aux mêmes espèces ou sont des variétés des mêmes espèces. Il faut observer toutefois que ces plantes ne sont pas rigoureusement des formes arctiques, car, ainsi que le fait remarquer M. H. C. Watson, à mesure qu'on descend des latitudes polaires vers l'équateur, les flores de montagne ou flores alpines, perdent de plus en plus leurs caractères arctiques. Outre ces formes identiques et très étroitement alliées, beaucoup d'espèces habitant ces mêmes stations si complètement séparées appartiennent à des genres qu'on ne trouve pas actuellement dans les régions basses tropicales intermédiaires. Ces brèves remarques ne s'appliquent qu'aux plantes. On pourrait toutefois citer quelques faits analogues relatifs aux animaux terrestres. Ces mêmes remarques s'appliquent aussi aux animaux marins. Je pourrais citer par exemple une assertion d'une haute autorité, le professeur Dana. Il est certainement étonnant de voir, dit-il, que les crustacés de la Nouvelle-Zélande aient avec ceux de l'Angleterre, son antipode, une plus étroite ressemblance qu'avec ceux de toute autre partie du globe. Sir J. Richardson parle aussi de la réapparition sur les côtes de la Nouvelle-Zélande, de la Tasmanie, etc., de formes de poissons toutes septentrionales. Le Dr Hooker m'apprend que 25 espèces d'algues, communes à la Nouvelle-Zélande et à l'Europe, ne se trouvent pas dans les mers tropicales intermédiaires. L'effet qui précède, c'est-à-dire la présence de formes tempérées dans les régions élevées de toute l'Afrique équatoriale, de la péninsule indienne jusqu'à Ceylan et l'archipel malais, et d'une manière moins marquée dans les vastes régions de l'Amérique tropicale du Sud, nous autorise à penser qu'à une antique époque, probablement pendant la partie la plus froide de la période glaciaire, les régions basses équatoriales de ces grands continents ont été habitées par un nombre considérable de formes tempérées. À cette époque, il est probable qu'au niveau de la mer, le climat était alors sous l'équateur, ce qu'il est aujourd'hui sous la même latitude à 5000 ou 6000 pieds de hauteur, ou peut-être même encore un peu plus froid. Pendant cette période très froide, les régions basses sous l'équateur ont dû être couvertes d'une végétation mixte tropicale et tempérée, semblable à celle qui, d'après le Dr Hooker, tapisse avec exubérance les croupes inférieures de l'Himalaya à une hauteur de 4 à 5 000 pieds, mais peut-être avec une prépondérance encore plus forte de formes tempérées. De même encore, M. Mann a trouvé que des formes européennes tempérées commencent à apparaître à 5000 pieds de hauteur environ sur l'île montagneuse de Fernando Po, dans le golfe de Guinée. Sur les montagnes de Panama, le docteur Seaman a trouvé à 2000 pieds seulement de hauteur une végétation semblable à celle de Mexico et présentant un harmonieux mélange des formes de la zone torride avec celle des régions tempérées. Voyons maintenant si l'hypothèse de M. Krall sur une période plus chaude dans l'hémisphère austral, pendant que l'hémisphère boréal subissait le froid intense de l'époque glaciaire, jette quelques lumières sur cette distribution, inexplicable en apparence, des divers organismes dans les parties tempérées des deux hémisphères et sur les montagnes des régions tropicales. Mesurée en années, la période glaciaire doit avoir été très longue, plus que suffisante en un mot pour expliquer toutes les migrations, si l'on considère combien il a fallu peu de siècles pour que certaines plantes et certains animaux naturalisés se répandent sur d'immenses espaces. Nous savons que les formes arctiques ont envahi les régions tempérées à mesure que l'intensité du froid augmentait, et, d'après les faits que nous venons de citer, il faut admettre que quelques-unes des formes tempérées les plus vigoureuses, les plus dominantes et les plus répandues, ont dû alors pénétrer jusque dans les plaines équatoriales. Les habitants de ces plaines équatoriales ont dû, en même temps, émigrer vers les régions intertropicales de l'hémisphère sud, plus chaud à cette époque. Sur le déclin de la période glaciaire, les deux hémisphères reprenant graduellement leur température précédente, les formes tempérées septentrionales occupant les plaines équatoriales ont dû être repoussées vers le nord, ou détruites et remplacées par les formes équatoriales revenant du sud. Il est cependant très probable que quelques-unes de ces formes tempérées se sont retirées sur les parties les plus élevées de la région. Or, si ces parties étaient assez élevées, elles y ont survécu et y sont restées, comme les formes arctiques sur les montagnes de l'Europe. Dans le cas même où le climat ne leur aurait pas parfaitement convenu, elles ont dû pouvoir survivre, car le changement de température a dû être fort lent, et le fait que les plantes transmettent à leurs descendants des aptitudes constitutionnelles différentes pour résister à la chaleur et au froid prouve qu'elles possèdent incontestablement une certaine aptitude à l'acclimatation. Le cours régulier des phénomènes amenant une période glaciaire dans l'hémisphère austral et une surabondance de chaleur dans l'hémisphère boréal, les formes tempérées méridionales ont dû à leur tour envahir les plaines équatoriales. Les formes septentrionales, autrefois restées sur les montagnes, ont dû descendre alors et se mélanger avec les formes méridionales. Ces dernières, au retour de la chaleur, ont dû se retirer vers leur ancien habitat, en laissant quelques espèces sur les sommets et en emmenant avec elles, vers le sud, quelques-unes de ces formes tempérées du nord qui étaient descendues de leur position élevée sur les montagnes. Nous devons donc trouver quelques espèces identiques dans les zones tempérées boréales et australes et sur les sommets des montagnes des régions tropicales intermédiaires. Mais les espèces reléguées ainsi pendant longtemps sur les montagnes ou dans un autre hémisphère ont dû être obligées d'entrer en concurrence avec de nombreuses formes nouvelles et se sont trouvées exposées à des conditions physiques un peu différentes. Ces espèces, pour ces motifs, ont dû subir de grandes modifications et doivent actuellement exister sous forme de variétés ou d'espèces représentatives. Or, c'est là ce qui se présente. Il faut aussi se rappeler l'existence de périodes glaciaires antérieures dans les deux hémisphères, fait qui nous explique, selon les mêmes principes, le nombre des espèces distinctes qui habitent des régions analogues très éloignées les unes des autres, espèces appartenant à des genres qui ne se rencontrent plus maintenant dans les zones torrides intermédiaires. Il est un fait remarquable sur lequel le docteur Hooker a beaucoup insisté à l'égard de l'Amérique et Half de Randall à l'égard de l'Australie. C'est qu'un bien plus grand nombre d'espèces identiques ou légèrement modifiées ont émigré du nord au sud que du sud au nord. On rencontre cependant quelques formes méridionales sur les montagnes de Bornéo et d'Abyssinie. Je pense que cette migration plus considérable du nord au sud est due à la plus grande étendue des terres dans l'hémisphère boréal et à la plus grande quantité des formes qui les habitent. Ces formes, par conséquent, ont dû se trouver, grâce à la sélection naturelle et à une concurrence plus active, dans un état de perfection supérieure, qui leur aura assuré la prépondérance sur les formes méridionales. Aussi, lorsque les deux catégories de formes se sont mélangées dans les régions équatoriales pendant les alternances des périodes glaciaires, les formes septentrionales, plus vigoureuses, se sont trouvées plus aptes à garder leur place sur les montagnes et ensuite à s'avancer vers le sud avec les formes méridionales, tandis que celles-ci n'ont pas pu remonter vers le nord avec les formes septentrionales. Et c'est ainsi que nous voyons aujourd'hui de nombreuses productions européennes envahir la Plata, la Nouvelle-Zélande et à un moindre degré l'Australie et vaincre les formes indigènes. Tandis que fort peu de formes méridionales se naturalisent dans les hémisphères boréales, bien qu'on ait abondamment importé en Europe, depuis 2 ou 3 siècles, de la Plata et depuis ces 40 ou 50 dernières années d'Australie, des peaux, de la laine et d'autres objets de nature à receler des graines. Les monts Nilgiris de l'Inde offrent cependant une exception partielle, car ainsi que me l'apprend le Dr Hooker, les formes australiennes s'y naturalisent rapidement. Il n'est pas douteux qu'avant la dernière période glaciaire, les montagnes intertropicales ont été peuplées par des formes alpines endémiques. Mais celles-ci ont presque partout cédé la place aux formes plus dominantes, engendrées dans les régions plus étendues et les ateliers plus actifs du Nord. Dans beaucoup d'îles, les productions indigènes sont presque égalées ou même déjà dépassées par des formes étrangères acclimatées, circonstance qui est un premier pas fait vers leur extinction complète. Les montagnes sont des îles sur la terre ferme, et leurs habitants ont cédé la place à ceux provenant des régions plus vastes du nord, tout comme les habitants des véritables îles ont partout disparu, et disparaissent encore, devant les formes continentales acclimatées par l'homme. Les mêmes principes s'appliquent à la distribution des animaux terrestres et des formes marines, tant dans les zones tempérées de l'hémisphère boréal et de l'hémisphère austral, que sur les montagnes intertropicales. Lorsque, pendant l'apogée de la période glaciaire, les courants océaniques étaient fort différents de ce qu'ils sont aujourd'hui, quelques habitants des mers tempérées ont pu atteindre l'équateur. Un petit nombre d'entre eux ont pu peut-être s'avancer immédiatement plus au sud en se maintenant dans les courants plus froids, pendant que d'autres sont restés stationnaires à des profondeurs où la température était moins élevée et ayant survécu jusqu'à ce qu'une période glaciaire, commençant dans l'hémisphère austral, leur ait permis de continuer leur marche ultérieure vers le sud. Les choses se seraient passées de la même manière que pour ces espaces isolés qui, selon Forbes, existent de nos jours dans les parties les plus profondes de nos mers tempérées, parties peuplées de productions arctiques. Je suis loin de croire que les hypothèses qui précèdent lèvent toutes les difficultés que présentent la distribution et les affinités des espèces identiques et alliées qui vivent aujourd'hui à de si grandes distances dans les deux hémisphères et quelquefois sur les chaînes de montagnes intermédiaires. On ne saurait tracer les routes exactes des migrations ni dire pourquoi certaines espèces et non d'autres ont émigré, pourquoi certaines espèces se sont modifiées et ont produit des formes nouvelles, tandis que d'autres sont restées intactes. Nous ne pouvons espérer l'explication de faits de cette nature que lorsque nous saurons dire pourquoi l'homme peut acclimater dans un pays étranger telle espèce et non pas telle autre, pourquoi telle espèce se répand 2 ou 3 fois plus loin ou est 2 ou 3 fois plus abondante que telle autre, bien que toutes deux soient placées dans leurs conditions naturelles. Il reste encore diverses difficultés spéciales à résoudre. La présence, par exemple, d'après le Dr Hooker, des mêmes plantes sur des points aussi prodigieusement éloignés que le sont la terre de Kerguelen, la Nouvelle-Zélande et la terre de feu. Mais, comme le suggère Lyle, les glaces flottantes peuvent avoir contribué à leur dispersion. L'existence, sur ces mêmes points et sur plusieurs autres encore de l'hémisphère austral, d'espèces qui, quoique distinctes, font partie de genres exclusivement restreints à cet hémisphère, constituent un fait encore plus remarquable. Quelques-unes de ces espèces sont si distinctes que nous ne pouvons pas supposer que le temps écoulé depuis le commencement de la dernière période glaciaire ait été suffisant pour leur migration et pour que les modifications nécessaires aient pu s'effectuer. Ces faits me semblent indiquer que des espèces distinctes appartenant au même genre ont émigré d'un centre commun en suivant des lignes rayonnantes, et me porte à croire que, dans l'hémisphère austral, de même que dans l'hémisphère boréal, la période glaciaire a été précédée d'une époque plus chaude, pendant laquelle les terres arctiques, actuellement couvertes de glace, ont nourri une flore isolée et toute particulière. On peut supposer qu'avant d'être exterminées pendant la dernière période glaciaire, quelques formes de cette flore ont été transportées dans de nombreuses directions par des moyens accidentels et, à l'aide d'îles intermédiaires, depuis submergées, sur divers points de l'hémisphère austral. C'est ainsi que les côtes méridionales de l'Amérique, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande se trouveraient présenter en commun ces formes particulières d'êtres organisés. Sir C. Lyell a, dans des pages remarquables, discuté, dans un langage presque identique au mien, les effets des grandes alternances du climat sur la distribution géographique dans l'univers entier. Nous venons de voir que la conclusion à laquelle est arrivé M. Krull, relativement à la succession de périodes glaciaires dans un des hémisphères, coïncidant avec des périodes de chaleur dans l'autre hémisphère, jointe à la lente modification des espèces, explique la plupart des faits que présentent, dans leur distribution sur tous les points du globe, les formes organisées identiques et celles qui sont étroitement alliées. Les ondes vivantes ont pendant certaines périodes coulé du nord au sud et réciproquement, et dans les deux cas, ont atteint l'équateur. Mais le courant de la vie a toujours été beaucoup plus considérable du nord au sud que dans le sens contraire, et c'est par conséquent celui du nord qui a le plus largement inondé l'hémisphère austral. De même que le flux dépose en ligne horizontale les débris qu'il apporte sur les grèves, s'élevant plus haut sur les côtes où la marée est plus forte, de même, les ondes vivantes ont laissé sur les hauts sommets leurs épaves vivantes, suivant une ligne s'élevant lentement depuis les basses plaines arctiques jusqu'à une grande altitude sous l'équateur. On peut comparer les êtres divers ainsi échoués à ces tribus de sauvages qui, refoulés de toutes parts, survivent dans les parties retirées des montagnes de tous les pays et y perpétuent la trace et le souvenir, plein d'intérêt pour nous, des anciens habitants des plaines environnantes.